Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La romancière que vous êtes crée des personnages que vous abandonnez le cœur brisé quand un livre est terminé. Fort heureusement, ils sont ensuite adoptés par vos nombreux lecteurs. Bonjour Christine Orban.
Bonjour Jacques.
Alors, je vous avais accueilli, voici quelques temps, c'était au numéro 318 des clés d'une vie. Là, on est au 736, donc on a plus que doublé. Et il y a de plus en plus d'auditeurs et on les remercie. Donc, on va évoquer aujourd'hui un autre livre qui est sorti depuis. C'est « Est-ce que tu danses la nuit ?» chez Albin Michel. Mais le principe des clés d'une vie, c'est quand même de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé d'autres. Par exemple, le 20 juillet 1993. Alors, c'est votre première télé sous le nom de Christine Orban. Avant, c'était d'autres noms. Et vous donnez votre avis sur la mode en marge d'un défilé de mode. Vous vous en souvenez ?
Ah non, absolument. Eh ben,
vous
pas.
Expliquez que la haute couture est un objet d'art, que c'est cher, mais que ce serait deux fois plus cher si vous étiez moins mince. Vous en souvenez tout ça ?
Non, absolument pas, mais je devais être en train d'écrire ou de publier Fringues pour parler de la mode.
Voilà. Alors, vous étiez aussi très proche d'un créateur dont vous suiviez le défilé et dont voici la voix.
Non, il n'y a jamais de thème, il y a simplement la poursuite effrénée, passionnée.
Emmanuel Ungaro. Emmanuel Ungaro, c'était un ami. Je crois même que vous avez été sa muse, Christine Orban.
C'est un compliment. Je ne sais pas si je l'ai inspiré. Lui m'a sûrement donné beaucoup de force à un moment donné où je traversais des moments difficiles et ça, il m'a inspiré Fringue. Je pense que le vêtement peut être aussi un paravent, peut être aussi peut aider à apparaître quand on a envie de disparaître et le vêtement m'a beaucoup aidé.
Oui, alors il vous a aussi causé la frayeur de votre vie. Vous deviez aller voir Parsifal, il avait une Austin et il roulait de façon totalement surréaliste.
C'est vrai que Emmanuel, qui était mon grand ami, je lui disais toujours qu'il conduisait très mal. Ouais. Il faisait tout le reste très bien, il était un immense couturier, mais il conduisait de manière complètement folle.
Et là, c'était la peur de votre vie, je crois, parce que c'était n'importe quoi. Et il avait aussi un ami très cher qui était Yves Navarre, oui. Le romancier disparu, qui avait un mal de vivre. Et chaque fois qu'il avait le mal de vivre, il allait chez Ungaro se réfugier, essayer de trouver le bonheur. Et c'est bon, il s'est suicidé. Et moi, c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui, lors d'une interview, s'est mise à pleurer parce qu'on ne parlait pas assez de ses livres et trop de lui.
C'est drôle, mais je le comprends. Fitzgerald souffrait aussi de ce moment où le personnage qu'on est devenu prend le pas sur les livres. Et je connaissais aussi Yves. Yves et moi étions très amis d'Emmanuel. Et au fond, c'était peut-être la mélancolie, notre lien.
Alors, vous écrivez des romans. Avant, vous savez beaucoup d'autres choses. Vous avez été championne de dressage au Maroc. Vous avez travaillé chez un notaire. Et personne, au départ, n'a fait le rapprochement entre Christine Orban et Christine Reims et Christine Dion, qui étaient les deux premiers noms de livres.
Oui, ce qui est de la folie. Il ne faut surtout pas changer de nom. Mais pour ça, il ne faudrait pas changer de vie. Et si j'ai changé de mari, c'était à cause d'un drame, évidemment. Et si j'ai pris un pseudo aussi, c'était pour justement être considérée juste pour mes livres. Parce que j'avais l'impression qu'à un moment donné, on parlait de moi, mais de moi, pas écrivain. Et l'important était mes livres. Donc j'ai écrit Virginia Evita sous le nom de Christine Dion. Et je le conseille à personne, c'est très frustrant de voir des très bons papiers. Et vous n'avez pas l'impression que c'est à vous qu'ils sont destinés quand ce n'est pas votre nom. Donc j'ai gardé le nom de mon mari, Olivier Orban, et je suis très contente comme ça.
Et vous avez dit à l'époque, quelle bêtise de croire qu'une femme ne peut pas être intelligente et féminine.
Oui, ça, franchement, c'est vrai. C'est moins actuel aujourd'hui, mais il y a une époque où, je me souviens, je passais chez Bernard Pivot et on m'avait dit, surtout, alors tu y vas en jean déchiré, pas coiffé, le cheveu sale, si tu vas être prise au sérieux. C'est scandaleux quand même de dire ça à une femme, non ? Ouais, et heureusement, aujourd'hui, il y a des écrivains, des scientifiques, qui sont des femmes qui demeurent coquettes et ça n'a rien à voir.
Alors ça s'est arrangé, Christine Orban, puisque je crois que vous êtes aujourd'hui membre de jury d'un nombre incroyable de jurys. J'en ai repéré certains. Il y a eu le prix Montalembert, il y a le prix Littérature et Musique, et surtout le prix Mamounia au Maroc, dont vous avez été une fidèle, je crois.
Je l'ai présidé pendant 8 ans. C'était un prix qui célébrait les écrivains marocains qui écrivent en français. Et la dernière fois qu'on l'a donné, c'était à Leïla Slimani, avant qu'elle ait le Goncourt.
C'était une trouvaille.
Donc voilà, on est fiers de nos choix.
Et ce sont vos origines marocaines, bien sûr, qui vous ont conduit là-bas. Ouais. Et la Mamounia, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que l'homme qui en savait trop d'Hitchcock a été tourné là-bas. Et le film a été bloqué pendant des années parce que par testament, Hitchcock, qui avait racheté les droits, l'a donné à sa fille qui l'a bloqué pendant des années.
Ça, c'est drôle.
C'est fou, hein.
Oui, c'est un hôtel mythique qui a vu beaucoup de grands personnages passer, de Gaulle, en effet, à Hitchcock et à Churchill. Enfin, ils sont très nombreux et de nombreux écrivains.
Alors, vous avez aussi, dans les lieux mythiques, le château de Versailles. Vous faites partie d'un jury. Et vous avez eu un prix du roman historique pour un de vos livres. Et ça, c'est un très beau souvenir. Je crois que c'est Jean Tullard qui vous l'a remis.
Mais oui, le fait que ce soit Jean Tullard, évidemment... surtout pour un livre qui concernait l'Empire, et que c'est pour moi un des plus grands spécialistes de l'Empire, ça m'a fait très plaisir. Mais vous savez, j'ai fait un débat sur qu'est-ce que les romanciers apportent à l'histoire, parce que j'y vais en tant que romancier, c'est-à-dire que moi je peux me mettre dans la tête des personnages en respectant évidemment les faits historiques, mais un historien pur ne peut pas interpréter. Donc qu'est-ce qu'on apporte en tant que romancier à l'histoire? Je cite souvent Zweig qui disait que l'intuition va plus loin que les froids documents. Zweig a écrit des biographies extraordinaires de Marie-Antoinette à Marie Stuart, mais évidemment interprétées et vues du dedans. Et j'essaie pas de limiter, mais en tout cas, c'est comme ça que j'aime aborder l'histoire.
Alors, vous abordez l'autre chose, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 23 janvier 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Christine Orban.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christine Orban. Il y a ce roman « Est-ce que tu danses la nuit » dont on va parler tout à l'heure. Mais là, je reviens à une date importante, le 23 janvier 2010, à Nice. C'est la première d'une pièce. Le collectionneur.
Ah, mais oui, c'est la première fois que j'adapte un de mes romans au théâtre et c'est Daniel Benoin qui l'a mis en scène, qui à l'époque dirigeait le Théâtre National de Nice. Et c'est un souvenir extrêmement émouvant, surtout j'ai eu la grande chance d'avoir François Martouret dans le rôle du collectionneur qui est un immense acteur.
Et vous aviez adapté ce collectionneur avec Olivier Orban, votre mari.
Avec mon mari.
Alors que vous étiez juré d'avoir des carrières séparées au départ.
Mais on a des carrières séparées. J'ai jamais voulu éditer chez mon mari, sauf le livre de la rencontre, oui. Qui évidemment, je lui ai dit, vous avez gagné une femme, mais vous avez perdu un auteur. Et je suis repartie parce que je ne l'ai pas mélangé. Et là, on partait en vacances et moi, j'allais encore travailler pendant toutes les vacances sur l'adaptation de mon roman Le Collectionneur. Et la seule façon, alors il commençait à faire la tête, c'est de lui dire, adaptons-le ensemble. Et ouais. Ça a été une expérience très amusante.
Alors, quand on est un auteur de roman, faire des pièces de théâtre, ce n'est pas évident car ce sont deux mondes très cloisonnés.
Sont deux mondes cloisonnés, mais assez complémentaires finalement, parce que autant je n'aime pas mettre trop de dialogue dans mes romans, je trouve qu'un roman, ça doit être écrit, et le minimum de dialogue, là, on peut faire parler le héros ou l'héroïne, et il devient peut-être un peu plus un personnage à part entière. Une personne, je veux dire, il quitte les pages, le personnage quitte les pages, s'envole et devient un personnage. Et sur scène, c'est encore plus vrai. Enfin, moi, j'ai été émue aux larmes. Je les ai tellement remerciés parce que tout d'un coup, mes personnages étaient vivants sur scène.
La première à avoir fait passer ses romans au théâtre, c'est Françoise Sagan, avec Château en Suède, qui a été un succès en Russie notamment, qui est encore joué. Elle a ensuite voulu adapter ses romans au cinéma parce qu'elle a dit « J'en ai assez de voir mes adaptations, mes livres devenir des âneries sur l'écran ». Je ne suis pas sûr qu'elle ait employé le mot « ânerie », voyez.
Une fois, j'ai compris une chose, parce que moi, deux films ne se sont pas faits, Fringues et aussi Le Collectionneur qui devait être au cinéma, parce que je n'ai pas aimé la manière, j'ai pourtant travaillé avec Briseville et Molinaro, mais j'avais une idée très préconçu et j'ai compris qu'il fallait lâcher son bébé, que c'était mon travail et ma vision des choses, le roman, et qu'après, c'était la leur et qu'il fallait accepter de s'en éloigner, de leur donner, comme on le donne au lecteur. Après, bon, on n'aura peut-être pas la même vision de mes personnages.
Alors, il se trouve aussi que c'était au Théâtre de Nice, que ce Théâtre de Nice est aujourd'hui dirigé par Muriel Mayette, avec qui vous avez joué pour la première fois sur scène au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris.
Oui, c'est vrai, mais vous savez tout. C'est la première fois que je suis montée sur une scène de théâtre et j'ai interprété Virginia Woolf. Muriel Mayette interprétait Vita Sackville-West. On avait recoupé ensemble, quand elle était donc à la Comédie Française, on avait recoupé mon livre Virginia et Vita. Et elle a été actrice, une très grande actrice aussi, Muriel Mayette, et je l'aime beaucoup. Et donc, grâce à Muriel, j'ai joué au Vieux-Colombier, ce grand théâtre, et je suis très fière.
Alors, vous avez effectivement une passion pour Virginia Woolf. Il y a quelqu'un d'autre qui a une passion pour Virginia Woolf et qui l'a chanté, c'est Mylène Farmer avec Dans les rues de Londres.
Mais tu sais, son âme est belle.
Cette chanson, effectivement, c'est à la fois la vie de Virginia Woolf et aussi un personnage, une femme qui s'appelait Esther Illisum, qui a été une poétesse juive, danoise, qui a écrit son journal et qui a disparu dans les camps de concentration. C'est un mélange des deux qui a fait cette chanson. Et Mylène Farmer est une femme, une fan totale de Virginia Woolf, comme vous.
Ah ben oui, je ne le savais pas. Moi, c'est plus qu'une fan, c'est comme une amie. Quand on a travaillé longtemps sur un texte, j'ai travaillé sur Orlando, et j'ai lu plusieurs fois son journal, l'année 1927 particulièrement, m'accompagne toujours, j'ai l'impression que c'est une amie. Quand j'ai une décision difficile à prendre, je me dis « qu'est-ce que ferait Virginia ?»
Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une femme de lettres anglaise de l'entre-deux-guerres, qui a été l'une des premières féministes avec un livre qui s'appelait Une chambre à soi. Donc, oui. Quelqu'un dont on parle depuis quelques années et qui revient dans l'air du temps.
Oui, parce qu'elle avait raison. L'indépendance d'une femme commence peut-être par le logement, avoir un endroit protégé où, si elle n'a pas envie qu'une autre personne rentre, ben elle ne rentre pas, un endroit pour travailler, pour être elle-même.
Mais en même temps, le nombre de fois qu'on me parle de Virginia Woolf dans cette émission, c'est incroyable. C'était pas le cas il y a quelques années.
C'est vrai que quand j'ai écrit mon premier livre sur Virginia Woolf, dans les salons, on me disait « Qui a peur de Virginia Woolf ?» Et c'est tout. Voilà. Et c'était, en général, les gens n'avaient que cette référence cinématographique et que maintenant, grâce un film qui a eu énormément de succès, quelques livres, je ne sais pas si j'ai participé, mais au début, je me souviens, j'étais passée chez Pivot, et il y avait P.D. James sur le plateau, qui s'est presque emporté en disant « Mais comment une Française peut oser écrire sur Virginia Woolf ?» Notre héroïne, elle est à nous. Et je me souviens de la tête de Bernard et la mienne devant cette P.D. James qui était prête à m'insulter parce que j'osais écrire sur Virginia Woolf.
Alors, il y a la romancière, l'auteur de théâtre, il y a la journaliste. Et un jour, vous avez eu le privilège d'interviewer Monica Lewinsky, Christine Orban.
Ah oui, parce que j'aime bien, j'ai été journaliste et j'aime beaucoup interviewer. Et j'ai interviewé Monica Lewinsky en plein scandale. Et j'ai gardé cette interview qui est quand même extraordinaire parce que je lui dis mais quand même si vous avez eu une aventure avec le président des États-Unis vous auriez pu être plus discrète et elle m'a dit je ne l'ai dit qu'à 11 amis c'est pas beaucoup quand même j'étais tellement fière.
Oui et en même temps accéder à Monica Lewinsky c'était pas évident arriver jusqu'à elle.
Bien, je sais pas, je fais confiance, voilà. Les gens ont confiance en moi, ils ont raison. Je fais relire les textes et je veux qu'ils soient heureux. Je n'essaie pas de les piéger, je crois qu'à un certain moment, ça s'est su.
Alors, elle dit aujourd'hui qu'elle a été la première personne au monde humiliée sur Internet. Et je sais pas si vous le savez, on vient de l'engager comme productrice déléguée sur la troisième saison d'American Crime Story qui racontera l'affaire Monica Lewinsky et Bill Clinton.
Vous voyez.
Pour la télévision.
Happy End. Elle a eu des moments difficiles après cette affaire.
Vous avez fait aussi d'autres interviews étonnantes, notamment Sœur Emmanuelle.
Oui, Sœur Emmanuelle. J'ai passé 3 jours avec elle. À vrai dire, c'était un petit peu intéressé parce que j'avais perdu ma petite sœur et j'étais extrêmement désespérée. Et je me disais, la seule personne qui va pouvoir m'aider, j'avais une grande admiration pour sœur Emmanuelle, c'est elle. Alors j'avais proposé au Figaro Magazine pour Noël de faire un spécial sœur Emmanuelle avec la couverture. Et ils m'ont envoyé chez elle 3 jours, faire des photos et parler avec elle. Et j'ai assisté même à un miracle, sœur Emmanuelle soignant, guérissant une jeune femme d'un chagrin d'amour. Je connais maintenant les mots pour guérir d'un chagrin d'amour. On était très amis, on est devenus à la suite très amis, on a continué à se voir et à se parler. Oui.
Et vous avez un regret, je crois, Christine Normand, vous auriez aimé être psy.
Oui, mais alors je suis, alors là j'ai pas comparé évidemment ni à Freud ni à Zweig, mais vous savez que Freud rêvait d'être romancier, Zweig rêvait d'être psychanalyste. Et un jour, Zweig envoie une lettre, son mari Antoinette à Freud, et Freud lui dit, mais vous l'avez parfaitement analysé, quelle méthode avez-vous choisi? Il dit, mais la vôtre, cher docteur. Donc j'essaie. J'ai fait une longue analyse et mes personnages me passionnent. Je fais comme si c'était des personnes. Je choisis leur névrose. Finalement, je suis beaucoup mieux dans mon rôle de romancier que de psy parce que toutes les névroses ne m'intéressent pas et toutes les personnes, j'avoue, ne m'intéressent pas. Et moi, je me les choisis bien, bien névrosées et avec des maladies qui me passionnent.
Vous avez été un petit peu moralement amoureuse de Freud, qui avait un défaut, il fumait 20 cigares par jour. C'est ce qui lui a quitté la vie, d'ailleurs.
Ben oui, si j'avais été sa contemporaine, comme beaucoup, comment elle s'appelle, Bonaparte, et comme aussi la chère Lee, je lui aurais déconseillé, évidemment, mais je n'étais pas là.
Voilà, vous faites un tabac, mais c'est avec des livres. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 2 mars 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Christine Orban.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christine Orban. Donc le 2 mars 2020 est sorti un nouveau roman, Est-ce que tu danses la nuit, chez Albin Michel. Et ce roman est assez particulier parce qu'il traite d'un sujet qui pourrait être difficile à traiter, si ce n'était pas Christine Orban, c'est l'histoire d'une attirance irrésistible entre une jeune femme et un homme mûr. C'est une histoire d'amour, mais vraie.
Oui, et ce n'est pas du tout une histoire d'emprise, c'est une histoire d'amour. Et pour moi, être une femme forte, c'est peut-être avoir le courage de déplaire.
Voilà. Alors, effectivement, cette idée est née, je crois, lors d'un dîner où une autre femme vous a fait une confidence sur ses amours, Christine Orban.
Oui, elle a tiré un petit papillon, jouait un jeu un peu idiot, et le sien, c'était « Avez-vous un secret ?» Et elle a blémi, et tout d'un coup, elle n'était pas obligée, elle a dit la vérité, son mari n'était pas loin, elle a dit « J'ai aimé le père de mon petit ami ».
Voilà.
Bon. Silence, évidemment, tout le monde très gêné, et moi je me suis dit « Quelle histoire incroyable, je vais écrire ce livre-là, cette histoire, parce qu'évidemment, j'avais déjà entendu parler d'histoires similaires, mais je voulais m'y plonger et vraiment la raconter, cette histoire. »
Et donc, il y a une héroïne, Tina, qui tient un journal, et il y a Simon, qui au départ a la réputation d'être un prédateur, et qui ne l'est pas vraiment.
Non, c'est pas un prédateur, c'est un gentleman dans les affaires, mais c'est un homme qui va être attiré évidemment par cette jeune femme, mais attiré physiquement, mais aussi plus profondément parce qu'il est veuf et qu'il a envie un peu de mourir, qu'il se sent à la fin de quelque chose, qu'il a renoncé aux femmes et elle va lui redonner vie. Elle va redonner vie à son corps. Alors, ce qui m'amusait, c'est de faire un personnage, pas borderline, mais évidemment, c'est la petite amie de son fils. Mais son fils va la laisser tomber. Et en même temps, pour lui, c'est une question presque vitale. Et il voit qu'il ne déplaît pas non plus à Tina. Donc, j'avais envie d'écrire un livre sur cette lutte entre la morale et le désir. Et peut-être faire gagner le désir, mais sans que ce soit un désir interdit, c'est un ni qu'il y aura des conséquences dramatiques, et sans que ce soit regretté ni par l'un ni par l'autre. C'est un moment de vie, un passage de vie. Je m'attarde sur le déclic, le moment où les choses deviennent irrépressibles, où ça va basculer ou et on peut pas arrêter une histoire. Non. Elle est irrésistible.
Et en même temps, si cette histoire n'avait pas eu lieu, c'était presque dramatique pour les deux, Christine Orban.
Mais oui, parce que quand on s'aime, quand on est attiré l'un par l'autre, peut-être que s'ils vont souffrir différemment, mais les souffrances auraient été plus grandes. C'était un passage obligé de vie.
Alors, la danse est présente, bien sûr, puisque ça s'appelle « Est-ce que tu danses la nuit ?» Et vous évoquez une discothèque qui est célèbre grâce à celui-ci. David Guetta, Poplife, qui a débuté d'abord dans un bar gay qui est au Hall, où Florent Pagny était barman d'ailleurs, et qui ensuite s'est retrouvé aux commandes de la discothèque des bains-douches. Et les bains-douches sont présentes dans votre livre.
Je dois vous avouer que je n'ai jamais été au bain-douche, juste une fois, très dernièrement, c'est quand Marc Lambron était élu à l'Académie française, il a fait un dîner au bain-douche, je lui ai dit « ouais, je vais y aller enfin pour la première fois ». Donc, je ne suis pas du tout une fan de boîte de nuit, mais ça, c'est le fils du héros qui va, dans une relation un peu perverse, qui imagine bien que son père est tombé un petit peu amoureux de sa copine et il va lui dire que Tina danse la nuit. Parce que dans ce titre, « Est-ce que tu danses la nuit ?», la danse, c'est, pour moi, ça symbolise la jeunesse, la nuit, le mystère. Et les trois petits points, c'est peut-être aussi l'histoire qui va continuer. J'ai pas voulu la brutalité d'un point d'interrogation.
Donc les bains-douches a été uniquement pour un dîner. Vous connaissez pas l'histoire de ce lieu qui était c'est Coluche qui l'avait redécouvert. Cathy Guetta, la femme de David Guetta, était aux commandes. David Guetta était totalement inconnu. La star, c'était Cathy Guetta, et maintenant ça s'est inversé. Et moi, j'y traînais de temps en temps comme chroniqueur parisien, et je veux dire que j'ai quand même vu beaucoup de choses et beaucoup de drogues passer, ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui.
Alors moi, je n'ai pas vu tout ça, mais je suis descendue, j'ai vu une espèce de piscine, j'ai vu... Donc évidemment, j'ai imaginé une scène là, c'était amusant d'y aller par l'imagination. Au fond, c'est ma double vie, vous voyez, un pied dans l'imaginaire, un autre dans l'imagination... être un ange dans la vie et un démon, comment on dit Antoven, il a traité mon héroïne de charmant petit monstre à la Sagan, ben voilà. Et un charmant petit monstre dans les romans, c'est très amusant.
Alors, naturellement, ce sujet entre un homme plus âgé et une jeune femme, ça peut, dans l'époque actuelle, entraîner pas mal de polémiques. Il faut faire très attention parce que tout est possible. Il y a des féministes qui peuvent se plaindre, des gens qui peuvent se plaindre et vous attaquer, Christine Orban.
Mais je pense pas du tout, parce que je pense pas, je suis moi aussi féministe et je suis surtout pour la liberté. Les deux sont libres, je vois pas pourquoi une jeune femme, d'abord n'est pas sous emprise celui qu'on croit, je vois pas pourquoi une jeune femme ne serait pas libre d'aimer un homme jeune ou plus âgé, si c'est son choix, ouais. Si c'est sa liberté.
Ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, parce qu'il y a quelques abus, on a voulu quelquefois vous faire signer des pétitions que vous avez refusées, Christine Orban.
Non, on ne m'a jamais demandé de signer. Je ne suis pas dans ce viseur-là, parce que je n'ai jamais vraiment... Non, on ne m'a pas demandé, mais si on me demandait et que j'étais en accord, je signerais. Je dirais peut-être qu'il faut protéger les hommes de plus de 50 ans.
D'ailleurs, vous reprenez à votre compte une formule de Louise de Villemorin qui a dit « Il n'y a rien de plus beau qu'un homme de 50 ans ».
Oui, ça c'est mon ami Jean Chalon qui m'a dit ça l'autre jour, que Louise avait dit ça pour embêter Malraux, et qui avait 80 ans, et l'embêter lui qui avait 30 ans. Et c'est bon, c'était une boutade, mais c'est vrai qu'une jeune femme, je trouve que les jeunes filles sont souvent plus matures que les garçons du même âge, donc on peut comprendre qu'elles soient plus intéressées par un homme qui a des manières et qui finalement est peut-être plus délicat, oui. Qui va faire plus attention à elle, qui va la comprendre. Pour la première fois, on lui demande avec un petit peu de sincérité comment elle va et si elle sera plus jamais triste. Alors même, elle se dit comment on peut répondre à cette question, on ne peut pas jurer. Mais il s'intéresse vraiment à elle.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui pensent comme vous et qui n'osent pas le dire, et ce livre va presque les aider à vivre autrement, Christine Normand ?
Oh, je pense que les femmes sont quand même libres et il faut oser dire qu'il y a des hommes de... Enfin, je sais pas, ça me semble pas du tout un blasphème de 50 ans attirant et qu'on n'est pas sous emprise parce qu'il y a une différence d'âge, que la jeunesse est au contraire une force, une très grande force, la jeunesse. Et d'ailleurs, la jeunesse, là, je ne veux pas raconter l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de... J'ai essayé de construire ça avec beaucoup de rebondissements, mais je montre que la jeunesse est bien au-dessus, finalement, que le pouvoir et l'argent.
Oui, sans aller jusqu'à Silvio Berlusconi, qui, à 84 ans, a largué sa femme de 34 ans pour une femme encore plus jeune, qu'il va épouser, soi-disant.
Non, mais là, vous parlez, en effet, peut-être de prédateur. Moi, mon héros, non, il a même renoncé aux femmes. Il tombe tout d'un coup fou amoureux, et pour elle, c'est une histoire aussi de déchirement entre la jeunesse et la maturité, parce qu'on peut aimer les deux. Alors, on peut avoir deux hommes dans sa vie, je ne porte pas de jugement, mais quand c'est le père et le fils, c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est Pierre Dac qui avait dit, une petite annonce échangerait femme de 50 ans contre deux de 25. C'est pas la même chose. Alors, vous avez aussi une passion pour les cheveux gris que vous évoquez. Les cheveux gris, pour vous, c'est le summum de la beauté d'un homme, Christine Normand.
Oui, il ne faut pas me comparer avec mes héroïnes, même si parfois... Quand j'écris, je deviens mon héroïne, mais je deviens aussi l'homme. D'ailleurs, je me mets dans la tête de cet homme. J'essaie de le comprendre. Et vous parliez peut-être de choses nouvelles. C'est essayer de se mettre dans la tête de l'homme qui va transgresser. Mais la fille aussi transgresse. Qu'est-ce qui se passe au moment d'une transgression ? Et c'est là où... J'aurais aimé être psychiatre, mais je le fais avec mon expérience de vie et aussi de psychanalyse. J'essaie de comprendre. Ce sont pas des monstres, pas du tout des prédateurs, et elle, c'est pas du tout une délurée, mais ce sont des gens qui vont avoir une attirance borderline, mais pas interdite.
Ce qui vous change aussi votre vie pendant les mois d'écriture, puisque vous vivez ces moments d'émotion, vous êtes avec vos personnages, c'est pas facile à vivre, et c'est pas facile ensuite de les abandonner, Christine Herbon.
Mais je les abandonne jamais, vous savez. Je les vois évoluer dans la tête de l'autre. Parfois, je peux m'insurger intérieurement, ou je le dis quand on ne les comprend pas, Mais il reste en moi pour toujours. Quand j'ai créé un personnage, j'ai essayé de le créer le plus proche possible d'un être humain, avec ses faiblesses, ses fragilités. Les fragilités des uns et des autres m'intéressent énormément, plus que la force d'ailleurs. La force s'impose, elle se discute pas. Mais les fragilités, c'est passionnant, ça nous ressemble. Et après, c'est eux qui me racontent l'histoire. Et je me lève de plus en plus tôt pour avoir la suite. Et je me disais, mais non, ne fais pas ça. Quand Simon prend des pierres et qu'il va, lui, on dit, les jeunes disent péter les plombs. Voilà, faire une chose qu'il ne devrait pas faire, évidemment. Ça m'a passionné d'être dans ce personnage.
Et justement, la passion pour vous, c'est un moteur de la vie, et un moteur qu'il faut de plus en plus développer et faire vivre.
La passion, quand je tombais amoureuse de son héros, c'est un vrai moteur. Je pense que si je tombais pas amoureuse, j'avancerais beaucoup moins. Je crois que je suis, vous parlez des cheveux gris, je suis à un moment donné Tina, attirée par cet homme aux cheveux gris. Je suis aussi lui. C'est la passion, les passions que je vis en écrivant, oui, me font avancer.
Les cheveux gris, justement, on a fait des recherches pour savoir d'où ça vient, parce qu'on n'est pas sûr du tout. Et il y a des chercheurs néerlandais qui ont mis au point une technique pour déterminer la couleur des cheveux des personnes grâce à un échantillon de l'ADN. Maintenant, on peut savoir si on a des cheveux gris, blancs ou blonds avec l'ADN. C'est curieux, hein?
Oui, du moment qu'on les a pas en une seule nuit comme Marie-Antoinette, parce que là, on dit que c'est un choc.
C'est un choc, c'est
autre chose. Ils doivent arriver progressivement, et quand c'est par les tempes, pour les hommes, c'est très joli.
En tout cas, ce qu'on lit progressivement, et ce n'est pas un choc, et tranquillement, c'est ce roman « Est-ce que tu danses la nuit » chez Albin Michel, et que vous publiez, ce sera peut-être un jour une pièce de théâtre, qui sait.
Mais j'aimerais bien, ça a déjà été adapté, par mais juste un passage pour le Paris des femmes, par Géraldine Martiré, et c'était formidable, et donc j'espère qu'on va continuer la route ensemble.
Eh ben nous, on se retrouvera sans doute pour un autre livre. Merci Christine Norban.
Merci Jacques.
D'avoir participé à ces Clés d'une vie. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye, et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.